Mais d'abord, parlant de révélation choc, on va dire, je ne sais pas si vous avez vu l'enquête de la presse en fin de semaine, quatre journalistes, dont Katia Gagnon, qui est la chef de l'équipe d'enquête de la presse. Bonjour, Katia.
Salut, Bernard.
Alors, à tous les lundis, je vous le dis, à cette heure-ci, on aura Katia qui va venir nous parler des enjeux de société. Par exemple, elle a beaucoup enquêté sur la question de la protection de la jeunesse. Il en sera sans doute question. Et je vous le dis aussi, on va prendre vos appels comme c'est notre habitude. Mais partons de cette enquête. Donc, c'est épouvantable ce que tu as découvert, Katia, ce que vous avez découvert dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés. Des cas d'abus puis de maltraitance qui n'ont pas d'allure, du monde de nos aînés qui meurent étouffés, qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau.
Oui, je t'avoue, Bernard, qu'on ne s'attendait pas à découvrir des histoires aussi épouvantables quand on a commencé à lire ces rapports-là.
C'est ça, vous avez fait venir les rapports du coroner, hein,
oui,
c'est ça?
On a fait venir, on a demandé au coroner, en fait, OK, envoyez-nous tout ce qui est un accident médical. Parce que ouais, dans la banque de données du rapport des coronaires, il n'y a pas erreur médicale. Ça n'existe pas, ce terme-là. Parce que, pourquoi? Parce que le coroner, lui, n'est pas habilité, il ne juge pas les actes des médecins, il dit « voici, il y a eu un problème », puis il transfère ça au Collège des médecins. Donc, dans leur banque de données, il n'y a pas erreur médicale. Accident médical. Donc, on a fait venir tout ça. C'était disséminé un peu partout. Ça a été compliqué. Ça a pris des semaines.
Une fois qu'on a tous les CHSLD du Québec, là.
Hôpitaux, CHSLD, résidences privées, résidences pour déficients, handicapés, enfin tout.
D'accord.
On voulait tout le réseau de la santé, tout ce qui s'appelle un petit peu santé au Québec, là, on voulait les avoir.
Okay. OK, ça, c'est une méchante pile de documents quand ça arrive.
C'est une méchante pile. On en a eu à peu près 1300 rapports.
OK, d'accord. Okay?
Là, on a lu ça.
Oui.
Hein?
Oui.
Oui, hein?
Oui.
Là, on a décidé d'éliminer quelques catégories, enfin, parce que, par exemple, les étouffements, c'est souvent très purement accidentel. Et là, on en est arrivé à un total de 926 rapports qu'on a lus attentivement et qu'on a recensés dans un document Excel avec le nom, la date, effectivement, l'établissement, la région, etc., pour en faire des bilans.
Hein? Oui, oui.
Et qu'est-ce qui est ressorti de ça? Écoute, moi, je lisais ça jour après jour. Là, j'étais tout seul dans un petit bureau à la presse, là, puis je lisais mes rapports du coroner. Là. Le monsieur qui est mort de soif dans un CHSLD, là, j'avoue que celui-là, quand je l'ai lu, là, j'en revenais pas. Le monsieur là, qui est dans un CHSLD de Beauport à Québec, le CHSLD Saint-Augustin, tout le monde dit, le docteur, la famille, les gens du personnel, faut l'hydrater. Puis,
il n'y a rien qui arrive.
Il n'y a rien qui arrive. Le pauvre monsieur, il est mort de soif.
Ça n'a pas de maudit.
C'est ça la conclusion du rapport du coroner. Et même chose pour le cas de la dame qui avait des plaies de lit non diagnostiquées. Donc, personne a vu, dans le personnel soignant, a vu qu'elle avait des plaies de lit, cette dame-là. OK? Puis là, elle disait à son fils, j'ai mal au dos. Mais là, le garçon, lui, il ne sait pas qu'elle a une plaie de lit. Il pense qu'elle a des malaises physiques, une personne âgée.
Je ne vais pas voir, hein? C'est
ben
ça?
Non,
tu
ben
dis,
non.
C'est ma mère. T'sais.
Le pauvre monsieur, il était tellement désolé. Il dit, et le message qu'il y avait pour notre journaliste, c'est quand vos parents se plaignent, allez voir, peu importe, mettez de côté votre pudeur, tout ça, allez voir, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu qui est très important.
Parce qu'elle, elle avait une plaie béante,
elle
c'est ça?
Elle avait une plaie de lit et qui s'est empirée et elle est morte de ça. Okay.
Comment tu peux mourir d'une plaie de lit?
Ben,
ça s'est infecté?
Le fils de madame nous a résumé ça en disant « ma mère pourrissait de l'intérieur ». Ok. Donc, oui, ça s'est infecté, ça s'est nécrosé en tout cas. C'est épouvantable. Donc, c'est des cas terribles. Puis des accidents bêtes aussi, Bernard. C'est ça qui est triste. T'sais, c'est des accidents, par exemple... La personne habite dans une résidence pour déficients ou pour malades mentaux, là, je ne me souviens plus exactement. Et l'infirmière, donc, fait le décompte des médicaments, distribue les médicaments. En fait, ce n'est pas une infirmière, c'est une intervenante. Elle distribue les médicaments. Ce jour-là, elle a oublié ses lunettes.
Mais voyons.
Fait qu'elle a donné le mauvais médicament à la mauvaise personne, puis cette personne-là en est décédée. T'sais? Donc là, tu dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Hein? Donc, on a épluché tous ces rapports-là. On a fait des bilans.
De... Oui.
Hein? On en est venu donc à un article sur les personnes âgées. Il y a un article sur l'Outaouais ce matin qui fait vraiment pas bonne figure dans ce décompte-là des accidents médicaux.
Ouais.
Puis, tu sais, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, Bernard, c'est à quel point le rôle du coroner est important. Hein? Et sous-estimé au Québec, là, les coronaires, ils font un travail dans l'ombre. Personne ne s'en occupe. Leurs recommandations, souvent, ne sont pas suivies. Hein? Et sais-tu combien ils sont de coronaires permanents au Québec là, qui font ça à temps plein?
Je dirais, je sais pas, une vingtaine.
Ils sont 8. 8 à temps plein.
Ils sont 8 à temps plein pour tout le Québec?
Et une centaine à temps partiel.
Okay.
Ça veut dire que c'est un coroner à temps partiel? Ça veut dire que c'est une personne qui a un job, là. Il est médecin, il est avocat, enfin, il a une profession quelconque qui exerce à temps plein. Et, by the way, il fait des rapports du coroner sur son temps.
Veux pas, ça prend un petit peu plus de temps peut-être pour avoir le rapport en question.
Effectivement.
Si tu le fais à temps partiel.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que ça impacte sur les délais. Les délais qui sont à peu près de 12 mois. Hein? Donc, ça, on a l'objectif de baisser ça à 6 mois. C'est des objectifs répétés par le bureau du coroner. Mais il en demeure pas moins que le nombre de coronaires, c'est un budget de 9 millions, là, Bernard. C'est tout petit.
Est-ce qu'il y a dans le mandat des coronaires le suivi des recommandations? Parce que, écoute, ce que tu nous as révélé là c'est public, là.
Oui.
Tu nous dis, c'est dans les rapports de coronaires là, qu'on a colligés, on les a lus, nous autres, puis on les ramène, dans le fond, dans la sphère publique. On les resoumet à l'opinion publique, parce que dans bien des cas, on oublie. Franchement, moi, ces histoires d'horreur-là, je m'en rappelais pas. Bon. Et là, j'ai le goût de te poser la question. Est-ce que tu penses pas que dans une éventuelle révision du mandat des coronaires, puis l'ajout de ressources aussi, est-ce qu'on devrait pas, dans certains cas, en tout cas, leur dire, retournez voir si vos recommandations ont été suivies, puis s'il faut tirer la sonnette d'alarme à nouveau, faites un point de presse pour dire, madame, là, qui est décédée, là, parce qu'elle pourrissait de l'intérieur, là, moi, là, comme coroner, j'aimerais ça qu'elle soit pas morte pour rien. Et donc, je relance un appel. Je veux savoir qu'est-ce qui a été fait par, dans ce cas-ci, le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Mais c'est drôle que tu dises ça, Bernard, parce qu'il y a un an à peu près, un an et demi, le Journal de Montréal a fait un dossier là-dessus. Les recommandations des coronaires sont-elles suivies? Et la réponse, c'était, en général, non. Hein? Et il y a des coronaires là-dedans qui étaient interviewés, le coroner Jacques Ramsey en particulier, qui avait recommandé en 2010 que la Ville de Montréal devrait dire aux propriétaires, le propriétaire des meubles, ordinaire, d'avoir des piles à longue durée dans leur détecteur de fumée. Mm-hmm. Hein, pas des petites piles ordinaires, là, des piles qui durent vraiment longtemps pour que le détecteur ne tombe pas en panne. Okay? En 2017, il y a eu un nouveau rapport de ce coroner-là et il a dit, écoutez, on aurait pu éviter 100 morts si on avait suivi ma recommandation de 2010. Donc, ils le disent, les coronaires, mais souvent, je pense qu'ils ont l'impression, puis je traduis ce qu'on m'a dit, un peu off the record. Ils ont l'impression un peu de crier dans le désert, ces gens-là.
Hein? Est-ce que tu penses que si on leur donnait ce mandat-là de réviser leurs recommandations pour voir ce qui en est arrivé, penses-tu qu'ils seraient partants, les coronaires? Penses-tu qu'ils auraient le goût de ça? Ben, si on ajoute des ressources,
en
évidemment.
En autant qu'on leur donne les moyens, là, c'est ça. T'sais, je veux dire, je veux bien, moi, qu'on suive les recommandations, mais il faut leur donner des moyens, des gens puis des budgets là, pour faire ça, là, c'est sûr.
OK. D'autres cas que tu nous soumets dans cette enquête, il y a l'histoire du monsieur qui avait besoin d'oxygène. C'est un monsieur, hein, c'est ça, qui avait absolument besoin d'oxygène pour respirer. Et le préposé, c'est ça? C'est un préposé qui a dit « ça fait trop de bruit, sa machine, fait que je vais l'éteindre », puis il est mort, étouffé.
Mais ça, c'est un autre cas de mort bête, Bernard. Tu vois, c'est... une dame, en fait, qui a besoin d'oxygène, effectivement. Puis sa machine à oxygène, elle fait du bruit. Hein? Donc là, les gens disent, bon, ben ça fait du bruit, c'est un peu fatigant, on va mettre ça dans le corridor. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Est arrivé un autre appareil, quelque chose, enfin. Et là, la machine de la madame a été débranchée. Alors, la madame, elle a perdu son oxygène, puis elle est morte. Hein? Puis il y a d'autres cas.
Elle est morte étouffée. Elle est morte. Plus d'air.
Exactement. Et ce qui est le pire, Bernard, c'est le fait aussi que on le dit pas aux familles, des fois, qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Les établissements, il y a un cas qu'on raconte, donc, où le monsieur était... est mort. Hein? La dame arrive le matin, son père est mort. Bon, on lui offre les condoléances et tout ça. Puis là, par la suite, il y a un journaliste qui l'appelle pour dire, écoutez, connaissez-vous vraiment les circonstances du décès de votre père? Il paraît que c'est le préposé de nuit qui a éteint toutes les cloches d'appel pour pouvoir dormir. Oui. Alors, la dame s'enquiert auprès de l'établissement. Écoutez, qu'est-ce que c'est ça? On me dit ça. Puis là, l'établissement nie. Or, le rapport du coroner dit C'est exactement ça qui s'est passé. Hein?
Le préposé voulait dormir, fait qu'il a éteint une cloche.
Exact. Alors, le monsieur est décédé, étouffé. Bon, c'était un monsieur qui était dans les derniers milles de sa vie. Il était vraiment... Il allait mourir, là, mais...
Mais il a le droit de mourir dans dignité, là,
exactement. Il méritait-tu de mourir dans ces circonstances-là? Tu sais, je pense que c'est à discuter, certainement. Là.
En terminant, as-tu l'impression que le personnel qui s'occupe de nos aînés, que ce soit dans un CHSLD, dans une résidence privée pour aînés, dans les ressources intermédiaires, parce que ça aussi, ça fait partie de votre enquête, les personnes handicapées, etc., as-tu l'impression que ce personnel-là est à la hauteur?
Bien, tu sais, il faut faire attention, Bernard, pas généraliser. Durant tout le week-end, j'ai reçu des courriels de gens qui étaient désolés de voir justement, oui, mais là, vous allez faire dire, pensez au monde que tous les docteurs sont pas bons, tous les infirmières sont pas bonnes.
Tous les préposés sont pas bons.
Il se fait des excellentes choses en CHSLD, dans nos établissements. Ça, j'en suis absolument convaincue. C'est sûr. Mais on peut pas ne pas braquer les projecteurs sur les pommes pourries, parce qu'il y en a. Il y en a dans tous les milieux, oui. Puis il y en a là aussi. Hein? Mais là, parce que les conséquences, dans ce cas-ci, ils ont été des décès. Hein? Donc, c'est des conséquences importantes. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce type de dossier-là.
Est-ce que Marguerite Blais, la ministre des Aînés, a réagi à votre enquête jusqu'à maintenant?
On lui a demandé de réagir avant publication. Mm-hmm. Elle a décliné notre offre. Et puis, ben,
elle a dit « je veux lire d'abord », c'est ça?
Ben, on lui a envoyé tout le matériel, là, enfin, disons, le résumé, les chiffres et tout ça qu'on avait. Et puis, elle a décliné notre offre de réagir. Je crois qu'il y a eu des tweets en fin de semaine, mais c'est tout.
On doit peut-être relancer ça, hein, n'est-ce pas? Parce que Marguerite, en général, elle est très présente et elle a pris beaucoup d'engagement, Marguerite, au nom du nouveau gouvernement. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que ce genre de situation-là ne se reproduise pas. On va s'arrêter parce qu'au retour, on continue avec toi, Katia. On va revenir sur le conte de fées de notre nouvelle tenniswoman numéro 1 au monde, hein, Bianca Andreescu, qui a remporté une victoire exceptionnelle. C'était beau à voir, ça n'a pas de bon sens. Mais on s'est dit, on va partir de ça, puis on va parler des parents d'athlètes.
Exact.
N'est-ce pas? Parce oui. que toi, tu t'y connais en la matière.
Absolument.
Oui, on prendra quelques-uns de vos appels ou de vos textos courriels si vous avez le goût de participer à la discussion après la pause.